Les podcasts du Collège de France.
Bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de physique mésoscopique. Donc cette année, je vais donner la première partie d'un cours intitulé Circuits et signaux quantiques qui se poursuivra l'année prochaine. Donc c'est un cours de base qui est destiné à vous expliquer comment des circuits électriques intégrés, finalement, peuvent être des objets quantiques et rivaliser, peut-être, c'est notre but, avec les systèmes de la physique atomique. Alors, je vais commencer par vous donner un certain nombre d'informations pratiques sur ce cours. Tout d'abord, depuis l'année dernière, nous avons pu construire un site web pour la chaire et il est disponible actuellement de cette façon. Si vous allez sur le site du Collège de France et que vous suiviez ce chemin, vous devriez tomber sur le site de la chaire de physique mésoscopique sur lequel vous allez trouver les transparents, les fichiers PDF de tous les exposés de ce cours et des cours de l'année dernière. Je vous encourage, s'il y avait un quelconque problème, à nous écrire donc à cette adresse et bien entendu tous vos commentaires, les corrections surtout, sont les bienvenus. Voilà. On m'a fait remarquer aussi qu'il serait intéressant d'avoir peut-être une impression des transparents avant le cours. Ça pose un certain nombre de problèmes techniques. Pour l'instant, notre équipe est encore assez réduite, mais enfin, on essaiera d'implémenter ça, si c'est possible, par la suite. En plus de ces cours, de ces leçons, il y aura à chaque fois un séminaire. Vous trouverez la liste des séminaires sur le site, évidemment, je les indique ici. Nous aurons le plaisir tout à l'heure d'écouter Denis Vion nous parler d'expériences récentes effectuées le transmonde dont je vais parler à la fin de cette leçon. Voilà, vous trouverez aussi le programme des leçons suivantes. Il y aura 6 leçons. Elles porteront essentiellement sur les circuits quantiques, mais traitées sur le plan du point de vue perturbatif. Donc les aspects très non perturbatifs et à la fois dissipatifs seront traités dans le cours de l'année prochaine. Mais enfin, les leçons de cette année permettront de vous donner une introduction du sujet. Voilà, donc on peut commencer maintenant. Voici le plan de l'exposé. Et je vais commencer doucement en faisant quelques rappels sur les circuits ordinaires classiques, dans l'espoir d'essayer de faire le contraste avec le traitement quantique qui va suivre. Alors, en fait, on va parler de circuits électriques plutôt dans le domaine des radiofréquences. Alors, ce domaine des radiofréquences est un domaine qui a beaucoup évolué au cours des dernières décades. Donc, dans les années 40, les fréquences typiques de ces circuits, c'était le mégahertz, donc à la fois pour les communications et pour le calcul. Et maintenant, nous sommes au gigahertz. Donc, c'est 3 ordres de grandeur en fréquence une 6 décades, 60 ans. On parle actuellement d'électronique terahertz, qui peut-être deviendra pratique et commerciale, disons, dans une trentaine d'années. Mais enfin, voilà un peu l'ordre de grandeur des fréquences, des circuits dont on va parler. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur un exemple le plus simple, le circuit LC, qui est le circuit qui a un seul degré de liberté. et on généralisera à partir de cet exemple. Alors, d'une manière générale, un circuit radiofréquence, c'est un ensemble de branches, d'éléments qui sont pris dans un ensemble standard. Ces branches sont connectées entre elles, et cela définit les nœuds, et on introduit aussi le concept de boucle du circuit. Ces circuits, ces éléments, on peut les voir comme finalement des champs électromagnétiques en bouteille. Chaque élément est en fait une somme sur le champ électrique ou magnétique. La tension sur une branche, c'est l'intégrale du champ électrique dans cette branche. Le courant dans la branche, c'est une double intégrale sur la densité de courant des porteurs dans la branche. On verra plus tard que ça peut être aussi compris comme une intégrale sur le champ magnétique. Alors, le cours porte sur les signaux. Ce que j'appelle signal, c'est une combinaison linéaire de ces tensions et de ces courants. Alors, vous êtes tous familiers, je pense, avec la façon dont on résout l'état du circuit. On commence par définir un certain nombre de variables indépendantes pour le circuit. Et puis, ces variables, en fait, sont obtenues à partir cet ensemble de variables indépendantes tiennent compte des lois de Kirchhoff, qui dit que la somme des tensions autour d'une boucle est égale à zéro et que la somme des courants qui vont vers un nœud est égale à zéro. Qui permettent d'établir un ensemble de variables indépendantes pour le circuit. Il faut en plus introduire, pour résoudre le circuit, les relations constitutives. Donc chaque élément qui est pris dans un ensemble fini d'éléments est caractérisé par une relation entre courant et tension. Alors, on distingue les éléments linéaires pour lesquels courant et tension sont reliés par une relation linéaire et les éléments non linéaires pour lesquels, finalement, le courant ou la tension va faire intervenir des puissances plus élevées que 1 dans ces relations constitutives. Alors, vous voyez déjà apparaître une anomalie dans cette liste. Il y a le transistor, qui est un élément à 3 fils. Pour l'instant, j'avais parlé que d'éléments à 2 fils. En fait, il y a des éléments plus complexes, donc les multipôles, des éléments qui, à la différence du dipôle, ont plus que 2 fils. Et d'une manière générale, ces n pôles sont caractérisés par n-1 courant et n-1 tension. Il y a d'autres éléments qui s'introduisent. Les relations que j'ai données précédemment sont local en temps. En fait, on peut généraliser ce formalisme et introduire des relations qui ne sont pas locales en temps. Mais tous ces éléments de complexité, en fait, je vais les ignorer aujourd'hui. Ils vont s'introduire petit à petit dans le cours. Alors, je vous rappelle la façon dont on résout l'état d'un circuit. C'est-à-dire, on cherche à partir de la donnée du circuit et de ses sources à connaître les courants et les tensions dans le circuit. Donc, le processus est en plusieurs temps. Choisir un ensemble de variables indépendantes et combiner ces relations constitutives et les lois de Kirchhoff. Alors, pour compléter cette très brève revue, voici l'exemple d'un circuit LC avec dissipation. La source est une source de courant. Et pour ce système, il est commode d'introduire le flux comme variable du système, le flux dans l'inductance, La dérivée du flux par rapport au temps, c'est la tension aux bornes de l'inductance. Et les différentes relations constitutives, et plus le fait que la somme de tous les courants dans ces branches doit être égale à zéro, nous donne cette équation du circuit. Bon, je pense que vous êtes tous familiers avec cette façon de faire. Le problème qui va nous occuper, c'est comment généraliser ce traitement à un circuit dans lequel courant et tension sont des variables quantiques. Et le but de cette leçon va être de vous donner un aperçu de la façon dont ça va se passer. Alors, avant de vous expliquer comment on quantifie un circuit, je vais passer quelques minutes à vous expliquer les motivations, pourquoi on cherche à avoir un circuit quantique. Il y a toutes sortes de motivations, mais je vais mentionner la principale. Donc, classiquement, si vous fabriquez un circuit mémoire avec des transistors, par exemple, vous allez disposer d'un registre, par exemple, dans lequel vous pouvez stocker des 0 et des 1. Et classiquement, quand vous prenez un registre, par exemple, avec 10 bits, vous allez pouvoir disposer de 1024 configurations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire un nombre dans ce registre entre 0 et 1023, mais vous allez pouvoir stocker et travailler avec un seul nombre à la fois. Quantiquement, le principe de superposition, si vous réalisez non pas des n bits, mais n bits quantiques, vous allez pouvoir stocker en principe une information beaucoup plus colossale, puisque vous pouvez en quelque sorte mettre ce registre dans une superposition d'états de toutes ces configurations. Il est très difficile de voir quel est le gain que ça apporte, puisque si vous faites une mesure, en fait, le principe de projection fait qu'un seul de ces nombres apparaît à la fois. Donc vous avez en principe une possibilité de représentation très grande, mais à la fin, vous allez toujours n'avoir qu'un seul nombre. En fait, il est possible quand même d'exploiter ceci si vous avez un problème qui est adapté. Alors, ce problème, c'est le suivant. Supposez que vous ayez une fonction f qui vous fasse passer d'un nombre, et ici je prends l'exemple de 10 bits quantiques, donc compris entre 0 et 1023, un nombre compris entre 0 et 1023. Donc classiquement, vous avez besoin, pour stocker cette fonction, les informations dans cette fonction, en fait, d'environ 1000 registres à 10 bits, c'est-à-dire 10 000 bits en tout. Et là, vous avez l'information complète sur la fonction. Quantiquement, en fait, il suffit d'avoir un registre à 20 qubits dans lequel vous allez rentrer cette superposition d'états qui établit la correspondance entre J et F de J. En principe, les informations sur la fonction sont là. Par contre, il ne faudra pas demander il faudra pas poser une question sur cette fonction qui tiendrait en plus de 20 bits. On comprend bien que ça sera impossible d'y répondre. Mais l'espoir, c'est de trouver des algorithmes qui arrivent à extraire l'information de cette fonction et de la présenter finalement dans ce registre à la fin. Donc il y a très peu d'algorithmes qui sont connus, qui réalisent ça, mais l'espoir est très grand d'y arriver un jour. Voilà un peu la motivation d'avoir des circuits quantiques, des circuits intégrés quantiques. Je voudrais dire d'une façon beaucoup plus modeste, ce parallélisme quantique est aussi extrêmement économe en énergie. C'est-à-dire que si vous voulez stocker cette information sur cette fonction, en moyenne, vous allez avoir, disons, la moitié des bits qui sera dans un état de... Il va falloir manipuler la moitié des bits et donc dépenser une énergie pour effacer le résultat précédent, pour stocker le résultat nouveau. Si vous avez un registre quantique, il y a beaucoup moins d'énergie à fournir, finalement, pour stocker l'information sur la fonction. À long terme, lorsque la densité d'information croîtra, c'est peut-être un avantage absolument décisif. Bon, Alors, ces motivations futuristes étant évoquées, passons à la façon dont on va quantifier, par exemple, l'oscillateur LC. Alors, concrètement, on va fabriquer cet oscillateur en prenant un métal supraconducteur, par exemple l'aluminium, et on va réaliser un ensemble constitué d'une capacité ici et d'une inductance. Ce genre de circuit existe en fait en pratique. On trouve ce genre de circuit dans les filtres employés dans le téléphone portable, hein, par exemple. Enfin, dans certains circuits micro-ondes. On prend le circuit ici de façon suffisamment petite pour que, enfin, on le construit avec des dimensions suffisamment réduites pour qu'on soit bien dans l'approximation des éléments discrets, donc pour qu'il n'y ait pas de phénomène de propagation. En pratique, ce que je veux dire, c'est que les dimensions du circuit vont être très petites par rapport à la longueur d'onde. On peut atteindre, par exemple, dans une fraction de millimètre, ces valeurs pour l'inductance et la capacité, et avoir une fréquence de quelques gigahertz pour la fréquence de résonance. Alors, la supraconductivité ici intervient de la façon suivante. On veut un système extrêmement peu dissipatif. La mécanique quantique et dissipation ne font pas bon ménage. Et ici, en fait, l'aspect supraconductivité est surtout utilisé pour avoir un circuit électronique dans lequel on va pouvoir traiter le fluide électronique comme un fluide incompressible, non dissipatif. Tous les aspects subtils de la supraconductivité n'interviennent pas ici. On a finalement un ensemble d'électrons caractérisé par un seul degré de liberté, qui est la position finalement du centre de gravité de tous les électrons. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de degré de liberté interne au fluide électronique. C'est l'intérêt de cette phase supraconductrice où finalement tous les électrons ont été condensés en paire et où il n'y a plus de degré de liberté interne. Alors, pour pour établir une comparaison avec la physique atomique, je considère un atome de Rydberg qui a l'avantage de pouvoir être considéré semi-classiquement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le voir comme un électron qui tourne autour d'un noyau. Je me rapporte au cours de Serge Haroche. Disons, au même niveau de description, le circuit LC supraconducteur peut être vu aussi comme un fluide électronique qui va aller venir entre les plaques du condensateur. Le seul degré de liberté, finalement, c'est l'accumulation de charges sur les plaques. Évidemment, ici, j'ai considérablement exagéré le mouvement du fluide électronique. En pratique, les dimensions sont plutôt femtométriques. C'est le déplacement d'ensemble des électrons est très faible, mais il y a beaucoup, beaucoup de charges, en fait. Ces circuits sont macroscopiques, donc la charge qui ira sur les plaques est quand même assez grande. Et finalement, le moment dipolaire de ce circuit, en pratique, sera en fait plus grand que celui de l'atome de Rydberg. Alors, on voit qu'il y a une correspondance qui serait naturelle entre finalement le mouvement d'un électron autour d'un noyau et le moment du fluide électronique par rapport au fond des ions positifs. C'est la signification de ce cadre rouge, c'est les ions positifs du métal. On pourrait donc établir une correspondance, on pourrait dire que la vitesse de l'électron autour du noyau, c'est le courant à travers l'inductance, et la force sur l'électron, c'est la tension aux bandes du condensateur. Ce n'est pas du tout le point de vue qu'on va adopter. En fait, ça serait le point de vue des charges. En électrodynamique, les degrés de liberté des charges et les degrés de liberté des champs sont couplés. On peut prendre soit l'un, soit l'autre. Le choix que nous faisons, c'est le choix de prendre les degrés de liberté des champs. Et dans cette optique, en fait, la vitesse de l'électron sera la tension aux bornes du condensateur et la force sur l'électron sera le courant dans l'inductance. Donc voilà notre degré de liberté principal, c'est le flux dans cette boucle. Alors voilà comment la correspondance s'organise en fait. Si on prend un circuit LC qui est l'équivalent d'un oscillateur harmonique, donc le flux dans l'inductance, ça va correspondre à la position d'une masse M. La charge sur le condensateur, c'est l'impulsion de cette masse. La force généralisée, la force qu'exerce le ressort sur la masse, c'est le courant dans l'inductance. Et la vitesse de la masse, c'est la tension, disons, aux bornes de la capacité. Un des avantages de ce choix, c'est que tension et vitesse, finalement, ont le même symbole, donc ça peut guider si on est perdu. L'intérêt de ce type de correspondance, c'est que en fait, il y a en mécanique, il y a extrêmement rarement des masses non linéaires. Il y a des ressorts non linéaires, mais il n'y a pas de masse non linéaire. Et c'est pour ça qu'on a effectué ce choix, parce que dans notre monde des circuits quantiques, il y a des inductances non linéaires, mais il n'y a pas de capacité non linéaire. C'est très difficile. Pour l'instant, on ne sait pas faire de capacité quantique non linéaire. Il y a d'autres raisons encore plus profondes que celle-ci qui en fait justifient ce choix, ce type de correspondance, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails plus spécialisés. Donc, on a ce circuit LC contient donc deux éléments, une inductance et une capacité. Et chacun de ces éléments va contribuer à l'Hamiltonien. Donc, vous êtes tous familiers avec l'Hamiltonien de l'oscillateur harmonique, qui est quadratique en P et en X. Ici, pour le circuit LC, on a la même chose. On a le premier terme ici et le terme électrostatique, c'est l'équivalent du terme d'énergie cinétique. Et il y a le terme magnétique, correspondant à l'énergie magnétique du champ dans l'inductance. Et ce terme correspond au terme d'énergie potentielle dans l'oscillateur harmonique. À ce stade, cet Hamiltonien est tout à fait classique. Il est simplement, c'est la fonction génératrice de la dynamique que l'on obtient en considérant finalement les équations du mouvement de ces systèmes. Alors, vous savez que l'Hamiltonien engendre toutes les équations dynamiques du système. Je les ai écrites ici pour le circuit LC. En particulier, ces équations permettent de définir de manière complètement générale ce qu'on appelle un courant. Si vous avez la possibilité d'écrire l'Hamiltonien pour le circuit, eh bien, vous connaissez le courant à partir de cette dérivée. Donc, le courant va être défini formellement comme la dérivée de l'Hamiltonien par rapport à cette variable de flux. Donc ça, c'est une définition très puissante que l'on exploitera par la suite. Donc le courant n'a pas besoin d'être défini à partir, disons, de manière microscopiquement à partir du mouvement des charges. Si vous avez une façon d'avoir l'énergie du système en fonction du flux, vous avez le courant. Donc ici, par exemple, l'élimination de ces deux équations permet d'obtenir la fréquence de résonance du circuit, exactement de la même façon qu'on l'obtient pour la masse accrochée à un ressort. À partir du moment où vous avez établi l'Hamiltonien du circuit, la correspondance classique quantique se fait sans problème. En fait, on utilise le formalisme de Heisenberg ici. Donc, à chaque variable classique est associé un opérateur. Donc, l'hamiltonien lui-même, la fonction génératrice du mouvement correspond à un opérateur qui fonctionne d'opérateur. Et les crochets de poisson, qui en mécanique formelle permettent d'écrire les équations du mouvement, sont remplacés par des commutateurs. Et en particulier, on obtient le commutateur entre la variable de position et la variable d'impulsion. Donc, on applique ce formalisme et on tombe sur cette relation que j'ai encadrée, qui est la relation principale de cette leçon. Si vous devez retenir qu'une seule chose dans cette leçon, c'est cette relation. Donc, on apprend là que le flux défini pour une branche ne commute pas avec la charge correspondant à cette branche. Donc, je vous rappelle que le flux et la charge sont des dérivées premières, sont des intégrales premières de la tension et du courant. Et en fait, on vient d'obtenir cette relation à partir finalement en reconnaissant le rôle du flux et de la charge comme variable conjuguée dans les équations du mouvement. Leggett, en fait, a écrit un texte assez éloquent en disant qu'on a l'impression comme ça qu'on pourrait quantifier les équations de la bourse. En fait, je ne crois pas qu'il y ait d'équations en économie qui satisfont à ces relations de conjugaison canonique. Mais enfin, ça sera intéressant de voir éventuellement si on aboutirait à des absurdités par cette voie. Pour se rassurer, on peut se dire que en fait, on pourrait obtenir cette relation à partir en fait de la théorie quantique des champs. On sait écrire en théorie quantique des champs le commutateur entre le champ électrique et le champ magnétique. Et comme ces variables, de flux et de charge sont des intégrables doubles sur le temps et sur l'espace du champ électrique et du champ magnétique, il y a une possibilité d'arriver à ce résultat par cette voie. Mais à ma connaissance, personne ne l'a fait. C'est extrêmement, extrêmement compliqué, en fait, dans les détails. Mais enfin, on peut aussi dire que cette relation de commutation est finalement obtenue de manière expérimentale. Aucune expérience sur les circuits quantiques faits depuis 25 ans ne vient apporter une quelconque objection à cette relation. Donc, muni de cette relation de commutation, on peut calculer ce qui se passe pour un circuit quantique. On peut en particulier obtenir le fait que l'énergie est quantifiée. Et si on se place à basse température, ça veut dire que le quantum d'énergie dans ce système doit être très supérieur aux fluctuations thermiques. Et en pratique, ceci est tout à fait possible avec un réfrigérateur à dilution et donc des fréquences de circuit qui se situent dans le domaine micro-ondes. On va pouvoir préparer un état quantique bien particulier pour ce circuit, qui est l'état fondamental. Alors, ce qui peut surprendre, mais finalement c'est les principes quantiques qui nous l'imposent, c'est que dans cet état fondamental, où la fonction d'onde est, finalement prend des valeurs non nulles pour des valeurs non nulles du flux, on est conduit à la remarque que finalement existent dans ce circuit simultanément des courants en sens opposé, puisqu'on peut avoir à la fois des flux positifs, l'état fondamental et une superposition d'états qui fait intervenir des flux à la fois positifs et négatifs, et donc des courants positif et négatif. En fait, cette remarque est vraie pour n'importe quel état, propre de l'énergie pour le système et ce qu'on appelle des états de photons ou des états de Fock. Donc, on introduit ici finalement ce qu'on appelle un photon dans un circuit électrique. Alors, cette hypothèse de l'absence de dissipation est importante. On peut montrer, et ceci apparaîtra plus tard dans le cours, que lorsqu'on met une résistance en parallèle avec le circuit, quand on commence à considérer des processus de dissipation qui peuvent être de trois natures, le circuit peut tout simplement rayonner, émettre finalement des ondes électromagnétiques et perdre son énergie de manière purement réversible. On peut avoir on peut avoir de la friction interne dans le circuit. La supraconductivité peut être imparfaite. Il peut exister des quasi-particules dans le circuit. Et une troisième en fait source de dissipation, c'est que ce circuit ne va pas exister de manière isolée. On va le mesurer et l'appareil de mesure qui va prendre de l'information sur le circuit a introduit aussi de la dissipation. Et cette dissipation a, pour résumer une situation qui peut être parfois complexe, cette dissipation pour l'oscillateur harmonique conduit à un élargissement des niveaux. En fait, l'élargissement des niveaux est proportionnel au numéro du niveau et fait intervenir le facteur de qualité du circuit. Ça, c'est pour satisfaire le principe de correspondance. En fait, ce circuit ne peut pas, dans une expérience où on va sonder le circuit en l'excitant, on ne peut pas mesurer cette quantification de l'énergie. On peut le faire si on mesurait la chaleur spécifique du circuit, mais ça, c'est une expérience très 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 délicate, qui n'a pas été encore réalisée. Donc c'est ça le problème de l'oscillateur harmonique, c'est que toutes les transitions entre niveaux sont dégénérées. Donc si vous excitez le circuit en envoyant une onde micro-ondes, vous aurez en fait, partant de l'état fondamental, vous allez peupler tous les états. Vous n'allez pas pouvoir passer sélectivement de l'état fondamental à un des états de photons dans cette parabole. Et ça, c'est parce que cette dégénérescence se produit parce que, pour l'instant, on a considéré un système parfaitement linéaire. Alors, pour que la mécanique quantique se révèle pleinement, il faut un élément non linéaire dans le circuit. Il faut, par exemple, que l'énergie potentielle soit tout sauf une parabole. N'importe quelle courbe peut suffire, peut être correcte. Il faut éviter la parabole. À ce moment-là, on lève la dégénérescence entre les différentes transitions et on va pouvoir adresser sélectivement un des états du circuit. Alors, ceci en pratique se fait en introduisant un élément non linéaire, non dissipatif, qui est la jonction Josephson. Actuellement, on aimerait bien trouver un autre élément. Il y a plusieurs propositions, mais aucune pour l'instant n'a conduit à de résultats. Donc, dans ce cours, je vais me concentrer sur la jonction Josephson. Alors, la jonction Josephson est un sandwich entre deux supraconducteurs séparés par une très fine couche d'oxyde qui joue le rôle de barrière tunnel. Électriquement, cette jonction Josephson est en fait une combinaison d'éléments. D'abord, une capacité, une simple capacité, on a finalement cette configuration ici, et n'est rien d'autre qu'un condensateur à plaque parallèle. Mais en plus de cette capacité, on a cet élément qui est représenté par une croix, qui correspond au passage des paires de Cooper à travers la jonction tunnel. Ce courant tunnel à travers la jonction correspond en fait à une inductance non linéaire. Cette inductance non linéaire est représentée dans les schémas par une croix. Ça peut, disons, souvent nous avons pensé que c'est un très mauvais symbole parce que cette croix ne fait absolument pas penser à une inductance. Si on voit le rôle de la jonction finalement comme un élément non linéaire qui permet de multiplier les signaux, c'est ce qu'on verra dans la suite du cours, de multiplier les signaux entre eux plutôt que de les additionner, finalement cette croix est rétrospectivement un excellent choix. Donc, quelle est la relation constitutive de cet élément Josephson ? Donc, j'ai dit que c'était une inductance non linéaire. Alors, on définit cette inductance de la façon suivante. On introduit le flux aux bornes de cet élément, et c'est un flux généralisé. C'est l'intégrale de la tension sur toutes les valeurs du temps intérieur. Donc, si on appliquait ce principe à une self, on verrait que cette variable phi est le flux du champ magnétique à travers la self. Mais cette définition, finalement, étend cette définition du flux à n'importe quel élément. Donc, du moment que vous avez la possibilité de définir l'intégrale sur un champ électrique spatial, qui n'est rien d'autre que cette tension, vous pouvez définir ce flux. C'est une variable tout à fait physique. Donc ce flux généralisé, pour une self ordinaire, va être relié au courant par cette relation où l'inductance intervient là au dénominateur. On a I égale phi sur L pour une self. Pour la jonction Josephson, c'est bien ce qu'on a pour des petites valeurs du flux, mais lorsque le flux augmente et prend des valeurs qui de l'ordre du quantum de flux, h bar sur 2e ici, eh bien, la relation s'incurve et en fait devient sinusoïdale. C'est, en fait, on peut voir cet élément Josephson comme un élément maximalement non linéaire. Pourquoi maximalement non linéaire ? Parce que finalement, lorsque la tension devient très grande, eh bien, ou le flux devient très délocalisé sur cet axe, eh bien finalement, la jonction devient un peu comme un circuit ouvert. Donc vous passez en fait d'un état de conduction, ici, dispersive, hein, puisque c'est le courant qui est relié au flux, pas à la tension. Mais finalement, pour les grandes valeurs de la tension, eh bien, finalement, vous avez une annulation complète de l'effet. Donc, l'échelle, il y a deux échelles pour cette jonction Josephson, cet élément Josephson, une échelle de flux qui est donnée par le quantum de flux, qui est l'échelle de variation, finalement, de l'inductance par rapport au flux. Et puis, il y a aussi une autre échelle, une échelle en courant. Le courant critique est le courant maximum qui peut passer dans la jonction. Et ce courant critique, I0 ici, en fait, peut être relié à deux autres grandeurs qui expriment finalement la même information. L'inductance effective de la jonction Josephson, qui est l'inverse de cette pente à l'origine dans la relation. Et on peut aussi donner la même information sous la forme d'une énergie, l'énergie Josephson, qui est l'énergie emmagasinée dans cet élément lorsque le flux atteint la valeur qui maximise le courant. Donc, en suivant une procédure analogue à celle que j'ai évoquée pour le circuit LC, on peut écrire l'hamiltonien d'une jonction Josephson connectée à un circuit extérieur. Je reviendrai plus tard dans le cours sur la façon dont on écrit systématiquement l'hamiltonien d'un circuit, mais Pour l'instant, cette relation ne va pas vous surprendre parce qu'elle est une simple généralisation de l'hamiltonien qu'on a écrit pour le circuit LC. Ici, on a simplement un hamiltonien qui est devenu non linéaire en flux. On a maintenant la relation sinusoïdale entre flux et courant se traduit en une relation cosinusoïdale entre flux et énergie. Donc là, on a un terme d'énergie potentielle. Et le terme d'énergie cinétique, lui, n'a pas changé, à ceci près qu'il faut faire intervenir la charge fournie par le reste du circuit. La charge fournie par le reste du circuit vient en décalage, ici, de l'impulsion dans le terme d'énergie cinétique. Donc, j'ai ajouté cette mention ici. Cet hamiltonien est très sérieux. Donc, il y a, disons 25 ans, lorsque ce type d'hamiltonien était écrit, cela paraissait une espèce de vision très théorique. Est-ce qu'il avait vraiment des chances de correspondre à une réalité précise, un peu comme l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène? Là, je vous ai écrit l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène à l'ordre le plus bas. Je néglige bien sûr les effets de spin, les effets relativistes, le fait la masse finie du noyau. Enfin, voilà l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène avec son potentiel en 1 sur R. R est la position de l'électron. P est l'impulsion de l'électron. Le couplage, vous voyez, de cet atome Josephson se fait de manière identique à celui de l'électron dans l'atome d'hydrogène au champ électromagnétique. Je vous rappelle que le potentiel vecteur ici intervient aussi comme terme de décalage de l'impulsion. En fait, on arrive maintenant, les expériences récentes sont tout à fait au niveau d'une comparaison assez honnête entre ces deux hamiltoniens. Disons, le type de précision que l'on a à partir de cet hamiltonien pour décrire la jonction Josephson est devenue comparable à la précision de ce modèle ici, ce modèle à l'ordre le plus bas, pour l'atome d'hydrogène. Donc on est particulièrement fiers de cet hamiltonien. Je voudrais mentionner ici au passage que donc, le terme d'énergie cinétique ici dépend de la charge, de la capacité pardon, de la jonction Josephson. Il est plus commode de prendre cet hamiltonien et de le mettre sous une forme réduite. On va introduire la variable réduite de flux, un flux sans dimension qui s'obtient en prenant le flux avec dimension et en le divisant par le quantum de flux. Et on introduit ici une charge sans dimension en prenant la charge ayant passé à travers la jonction et en divisant par la charge des paires de Cooper. Et celle-ci permet d'obtenir donc des variables sans dimension et dont la relation de commutation devient comparable à celle de la phase et du nombre pour l'oscillateur harmonique. Et là, je m'empresse de faire une remarque très importante, c'est que l'espace de Hilbert correspondant à cette phase ici et à ce nombre est très différent de celui de l'oscillateur harmonique. C'est quelque chose qu'on va voir par la suite. Il ne faut pas, par exemple, une grande différence, c'est que ce n ici peut avoir des valeurs négatives et positives, alors que le nombre pour l'oscillateur harmonique, l'opérateur nombre, ne peut avoir que des valeurs positives. Donc attention à cette relation. Alors, dans cette forme réduite, l'hamiltonien prend la forme suivante, où en fait on voit apparaître deux énergies qui sont sur le même plan. L'énergie Josephson, dont j'ai écrit la formule ici, je vais pas la commenter, on verra ça dans une leçon ultérieure. Cette énergie Josephson est donnée en fonction d'un certain nombre de paramètres contrôlables, comme la surface de la jonction, qui intervient ici dans le nombre de canaux électroniques, et le gap du supraconducteur. Donc cette énergie Josephson donne l'échelle de l'énergie potentielle dans le circuit. Cette énergie qui est devant le terme cinétique, c'est l'énergie de Coulomb. Et ici, j'ai adopté la convention que l'énergie de Coulomb correspond à l'énergie d'un seul électron sur la capacité du condensateur de la jonction Josephson. Je vois que Daniel sourit. Je justifierai ce choix par la suite. Vous voyez apparaître un 8. Ce choix, d'ailleurs, ce facteur 2 ici, et ce choix de l'électron simple sont responsables pour l'apparition de ce facteur 8 en face de l'énergie cinétique. Alors, pour sentir un petit peu ce qui se passe, il est commode de prendre cet Hamiltonien et de faire un développement à l'ordre le plus bas dans cette variable sans dimension phi. Si on réalise ceci, on voit que finalement, pour les petits flux, l'Hamiltonien de la jonction Josephson redonne celui de l'oscillateur harmonique, et on peut ainsi introduire une fréquence caractéristique qui est la moyenne géométrique entre ces deux énergies et qui est la fréquence plasma de la jonction Josephson. C'est l'énergie caractéristique associée à la jonction. Et donc les énergies vont être peuvent se comparer à h-bar fois cette fréquence. Vous remarquerez qu'à cette échelle d'approximation, si cet Hamiltonien dégénère pour donner cette forme quadratique, en fait, le spectre en énergie devient indépendant de cette valeur de décalage. Cette valeur de décalage, si elle dépend du temps, va pouvoir contrôler le système, on peut exciter le système, mais une valeur continue pour n, pour la charge qui passe, qui est couplée au circuit, ne va pas modifier le spectre d'énergie. Ces équations sont très jolies, mais enfin, quand même, une certaine honnêteté m'oblige à vous présenter ce qu'est une jonction vraiment tunnel dans la réalité. C'est pas beau, c'est assez irrégulier. Donc, lorsque la jonction fait une surface de quelques microns carrés, c'est encore acceptable. On reconnaît bien le sandwich ici. Donc ça, c'est un cliché obtenu au microscope électronique. On voit les deux électrodes qui se recouvrent. Il y a des électrodes parasites ici qui ne jouent pas de rôle dans le circuit, qui sont des artefacts du processus de fabrication. Lorsque, par contre, on réduit la taille de la jonction pour obtenir des énergies Josephson plus petites, pour avoir des systèmes plus sensibles, voyez à quoi ressemble la jonction Josephson. Donc, c'est très. Ça fait très Jurassic Park quand même. Par contre, là, il y a deux ordres de grandeur de différence entre les échelles d'énergie. Par contre, la fréquence plasma qui fait intervenir le produit de l'énergie de Coulomb et de l'énergie Josephson, elle varie très peu parce que la capacité de la jonction intervient au dénominateur dans l'énergie de Coulomb et finalement l'aire de la jonction intervient au numérateur dans l'énergie Josephson. Donc il y a une compensation à peu près parfaite de la taille et donc toutes ces jonctions, quelle que soit leur énergie Josephson, ont une fréquence plasma qui se situe entre 30 et 40 GHz. Alors, on arrive maintenant à la boîte à paires de Cooper. Donc, je vous ai parlé d'une jonction tunnel Donc un élément Josephson en parallèle avec une capacité connectée à un circuit extérieur. Le circuit extérieur peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs façons d'imposer la charge, cette charge Q extérieure dans la jonction. On peut avoir un dispositif où c'est piloté en charge, c'est-à-dire qu'une capacité connectée en série avec une source de tension polarise la jonction en charge. Ça, c'est le cas donc, du pilotage en charge. On peut refermer la jonction sur un circuit supraconducteur et introduire un flux. C'est la jonction polarisée en flux. Et on peut avoir une jonction dans laquelle on impose un courant par un générateur de courant extérieur. Dans ces différents cas, on va modifier le potentiel effectif de cet atome et avoir différentes formes possibles. Et la quantification du circuit, disons, se manifestera par l'existence de niveaux discrets dans ce potentiel. Donc, dans la suite de l'exposé, je vais me concentrer en fait sur ce cas le plus simple de la polarisation en charge. Il y a de nombreuses équipes qui travaillent sur ces différentes implémentations de l'atome Josephson, mais je vais me concentrer sur cette implémentation la plus simple. Donc, cette implémentation la plus simple est en fait appelée boîte à paires de Cooper. Pourquoi ? Parce que, en fait, lorsqu'on connecte la jonction Josephson à une source de tension en série avec un condensateur, on forme une électrode isolée qu'on surnomme île. C'est un îlot supraconducteur. Et cet îlot supraconducteur est relié à un réservoir de paires de Cooper par une jonction Josephson qui ici a été qui est percée d'un trou. En fait, on réalise ce dispositif en mettant deux jonctions en parallèle. Cette boucle ici permet d'introduire un flux, cette fois-ci un vrai flux, un flux extérieur correspondant à un champ magnétique, et ce qui permet de piloter l'énergie Josephson. Avec ce flux, on peut contrôler l'intensité du couplage Josephson, donc un des termes de l'hamiltonien. Et cette source de tension ici, qui va introduire un champ électrique entre cette île et ce condensateur de grille, cette électrode de grille, va pouvoir piloter l'autre terme dans l'hamiltonien, le terme d'énergie électrostatique. Et dans nos schémas, cette boîte à paires de Cooper est symbolisée par ces éléments. La jonction de tunnel, enfin chacune de ces petites jonctions correspond à ce carré et cette croix qui représente à la fois l'élément tunnel et la capacité de la jonction. Alors, je vous présente ces résultats récents sur la spectroscopie de la boîte à paires de Cooper obtenue dans le groupe de Rupscholkopf à Yale. J'ai choisi ces résultats parce qu'ils m'apparaissent les plus proches possibles de la spectroscopie qu'on peut réaliser sur un atome. Donc, c'est une expérience dans laquelle la fréquence d'irradiation a été balayée, donc ici aux alentours de 6 GHz, et on voit apparaître des résonances qui correspondent aux transitions entre quantiques dans le circuit. Donc c'est, à mon avis, la meilleure preuve expérimentale de la quantification d'énergie, enfin, disons celle qui est la plus commode à présenter comme dans une revue telle que celle-ci. Donc, vous voyez, cette raie noire correspond à la transition entre le niveau fondamental et le premier niveau excité. À plus basse fréquence, le potentiel s'incurve lorsque vous allez dans les énergies les plus hautes. Donc, la fréquence de transition devient plus petite. Donc, à plus basse fréquence, vous avez cette raie, la raie 1-2, qui apparaît, qui doit être en fait, qui ne peut s'observer lorsque vous avez peuplé, c'est une réconditionnelle, il faut d'abord effectuer cette transition ici pour peupler ce niveau. C'est pour ça que ce spectre ici apparaît en bleu. Et en fait, on peut voir aussi dans cette expérience une raie à deux photons qui apparaît ici, qui est en fait la transition 0,2. Donc dans cet oscillateur non harmonique, on peut induire, elles sont faibles, mais on peut introduire des transitions directes entre, disons, à deux quanta. Donc cette transition fait intervenir deux fréquences micro-ondes et s'obtient en fait sur cette trace rouge où l'intensité, disons, de l'irradiation micro-ondes a été démultipliée. C'est pour ça que finalement cette raie ici fine apparaît en fait élargie par un effet, disons, qui est dû en fait au bruit de photons dans l'irradiation. Ce qui est très pratique sur ce résultat, c'est que vous voyez se manifester très directement l'anharmonicité du circuit. C'est-à-dire que si on avait un circuit harmonique, si on avait un circuit LC, la transition 0,1 et la transition 1,2 seraient confondues. Ici, en fait, elles sont séparées par environ 500 MHz. Et un petit calcul montre que finalement, cette différence de fréquence de transition, donc qui caractérise la non-linéarité ou l'anharmonicité du système, est en fait directement donnée par cette énergie de Coulomb. Et donc, vous voyez, l'énergie de Coulomb correspond à une fréquence relativement faible, en tout cas une énergie qui est relativement faible par rapport aux fluctuations thermiques. Cela n'a pas beaucoup d'importance puisque dans cette expérience, la pureté des états est déterminée par ce gap, en fait, cette fréquence de transition entre l'état fondamental et le premier niveau excité. Donc on peut tout à fait, dans un tel système, placer la jonction dans son état fondamental et après, disons, peupler sélectivement ces différents niveaux. En fait, cette boîte à paires de Cooper a un Hamiltonien qui est non linéaire, mais qui se trouve à la limite de la solubilité. On peut en fait connaître, disons, toutes les énergies propres et toutes les fonctions propres les exprimer en termes des fonctions de Mathieu. Je vous rapporte à la thèse d'Audrey Cottet. Par exemple, si vous voulez des détails sur cette question, qui est disponible sur le site web du groupe Quantronic. Et par exemple, en fonction de ce paramètre EJ sur EC, qui est le rapport d'aspect de cet atome, on peut tracer le spectre d'excitation de la boîte à paires de Cooper en fonction de l'énergie de charge, c'est-à-dire la tension appliquée à la grille. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente ce rapport EJ sur EC, ces niveaux d'énergie tendent de plus en plus vers les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique. Les niveaux deviennent équidistants et deviennent insensibles à la charge. C'est cette charge de décalage pour un système harmonique n'influe plus sur le spectre. La beauté de ce système, c'est que même lorsque les niveaux deviennent équidistants, du moins deviennent insensibles à la charge, l'harmonicité se conserve de manière relativement bonne. Les niveaux deviennent extrêmement plats. En fait, l'indépendance par rapport à ce paramètre de charge et devient exponentiellement petite, c'est ce terme ici dans le facteur de modulation de l'énergie en fonction de la charge. Par contre, l'anharmonicité, elle, est en fait faite intervenir directement cet exposant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas proportionnelle à l'exponentielle de ce rapport entre EJ et sur EC, mais dépend simplement de façon polynomiale de ce rapport. Donc, c'est ce fameux transmon, cette boîte à paires de Cooper dans un régime où le rapport entre l'énergie Josephson et l'énergie cinétique est de l'ordre de 50, est un excellent système qui est à la fois non linéaire et indépendant, finalement, qui a un spectre d'énergie très, très robuste. Et tout à l'heure, nous allons en fait écouter un exposé de Denis qui va nous parler d'expériences récentes sur ce système. Voilà, j'ai essentiellement terminé cette première leçon. Je vais vous demander quelques minutes de patience. Je voulais évoquer avec vous les questions qui vont être abordées dans les leçons suivantes. En fait, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'il est... Je vous ai présenté cet élément Josephson, mais finalement, est-il suffisant? Est-ce qu'on peut assembler un certain nombre d'éléments de base comme celui-ci pour effectuer toutes les fonctions, de la manipulation quantique? Alors, le but, c'est d'obtenir une situation analogue à celle de l'optique quantique, dans laquelle cette manipulation des objets quantiques est très mûre. C'est un sujet qui a été développé depuis de nombreuses décades. Le point faible de l'optique quantique, c'est que l'élément non linéaire est toujours un atome, un vrai atome de manière traditionnelle. Maintenant, un quantum dot, ou disons un atome sur chip. Le problème, c'est qu'il est difficile de bien se coupler aux atomes. Nous verrons que pour la jonction Josephson, le couplage en fait est arbitrairement grand. Il n'y a aucune limite dans le couplage, la force de couplage entre une jonction Josephson et un circuit. C'est le point fort de ces circuits quantiques. Comme en optique quantique, ils permettent ces éléments permettent une construction de l'Hamiltonien, du système, par un système de type Lego. C'est ce qui est extrêmement tentant. C'est le fait de pouvoir finalement implémenter n'importe quel Hamiltonien, y compris l'Hamiltonien d'un système à n corps, quantique, en combinant ces éléments. Le point peut-être faible à souligner, c'est que les atomes artificiels, comme la jonction Josephson, n'ont peut-être pas la pureté, n'ont peut-être pas la reproductibilité des atomes naturels, bien qu'en fait ces approches finissent par se rejoindre, puisque lorsqu'on met des atomes sur un circuit, ils sont aussi sensibles, eux, aux imperfections finalement de ce circuit. Donc l'environnement commence à jouer un rôle très important, même pour ces atomes. Donc voilà le programme, c'est d'établir autant que possible un parallèle entre ces disciplines. Et en particulier, la question que je voudrais aborder, c'est une question de traduction. C'est-à-dire comment on traduit le langage des circuits électriques, où on parle en termes de tension et de courant, en termes de signaux, dans le langage de l'optique quantique où on aime parler en termes de photons, en termes de quanta échangés entre l'atome et le champ, en termes de processus faisant intervenir finalement des photons. Et ces questions, normalement, devraient nous permettre de déboucher sur une question beaucoup plus générale, beaucoup très intéressante, qui est de traiter de manière très générale un système, quantique, dissipatif, non linéaire et hors équilibre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et ces cours, en fait, sont suivis d'une bibliographie restreinte les différents points que j'ai mentionnés peuvent être retrouvés dans les articles, donnés dans ces bibliographies. Merci pour votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.